Chapitre 20. Le dernier jour d'un homme heureux. Capucine sait qu'en partant quelques jours plus tôt, Adélie a quitté le nid. Même si elle logeait dans leur studio strasbourgeois depuis une année pour aller à la fac, elle rentrait certains week-ends, appartenait encore au foyer. Cette réalité ajoute du vide au vide dans le cœur de sa grande sœur. Comme certaines mères, certains pères qui ressentent dans cette page qui se tourne, la puissance d'un ouragan qui emporte tout sur son passage et les laisse sonner et penauds. Le syndrome du nid vide n'est pas qu'une histoire de couvée maternelle. La villa familiale n'en est que plus grande, plus désincarnée, plus froide. Depuis le départ de sa petite sœur, Capucine s'est réfugiée chaque soir dans la chaleur de l'atelier avec Oscar. Prendre soin de lui, chercher en lui un trait d'union avec son père. Son père, dans la boîte en marqueterie, est resté sur la table basse du salon depuis qu'elle l'a exhumé du grenier. Elle n'a pas encore ouvert les carnets. Intimidée à l'idée de sentir son papa trop présent, comme lisant par-dessus son épaule, sur ce qu'il avait écrit de sa propre main, elle qui n'a pas pris le temps d'accepter son absence. Il a fallu faire face et bonne figure devant une petite sœur qui ne demandait qu'à grandir. Adélie partie, Capucine reste en tête-à-tête avec ce père qu'elle n'a jamais vraiment laissé partir. Si en plus elle se plonge dans son intimité, mais peut-être est-ce la clé pour dire enfin oui à ce qui est, se remplir tout entière de ses mots, de ses pensées, de sa personnalité, pour comprendre, avec toute la violence nécessaire au deuil, que cet homme a été, mais ne sera plus. Chaque jour, elle pense à ses carnets. Chaque jour, elle recule, faute de savoir par où commencer. Elle hésite entre une lecture chronologique, une autre aléatoire, ou remonter le temps. À moins de ne rien lire du tout. Elle sait surtout qu'elle doit chercher le cahier en cours, celui qu'il remplissait probablement dans la période de l'accident, celui qui évidemment ne se trouve pas dans la boîte puisqu'il n'avait pas prévu de mourir. Elle s'est assise à nouveau face à son bureau, cet espace sacré. Il y a 11 ans, elle l'avait rapidement passé en revue pour en extraire les papiers nécessaires à destination des pompes funèbres, de la banque, de l'office notarial, des compagnies d'assurance. Jean-Baptiste était un homme extrêmement organisé. Tous les dossiers, les classeurs, les relevés étaient soigneusement étiquetés. Elle ouvre chaque tiroir, soulève des pochettes cartonnées, de vieux chéquiers, une petite réserve de stylos et de bloc-notes publicitaires. Un souvenir joyeux l'envahit. À l'adolescence, elle attendait son père de pied ferme à chaque retour de colloque. Quand il avait passé le week-end à Paris, à Nantes, à Lyon, parfois à l'étranger, pour rencontrer ses pairs, échanger dans des tables rondes autour des dernières recherches en cardiopédiatrie. Un nouveau procédé d'opération, du matériel dernier cri, des molécules innovantes, des retours d'expérience, des publications. Durant ces rencontres professionnelles, les pauses étaient consacrées à la déambulation des participants dans les couloirs des centres de congrès, où les laboratoires tenaient leur stand pour présenter leurs nouveaux produits à tous ces chirurgiens concernés, en leur offrant café, viennoiserie, mignardises, chocolat et toutes sortes de stylos, de bloc-notes et autres gadgets à leur nom. Les médecins, destinataires de ces attentions commerciales, étaient censés les utiliser en consultation pour bien imprimer la marque des laboratoires et des entreprises dans l'inconscient des patients, des collègues, dans le leur. Mais Jean-Baptiste ne les acceptait que dans le but de les offrir à ses filles dès son retour. Les stylos rigolos et feutres divers revenaient à la petite, quand la grande recevait de quoi prendre des notes, faire des fiches, noircir des post-it pour réviser ses cours. Parfois, Capucine en offrait à ses copines de collège, impressionnée d'appartenir ainsi, même de façon indirecte et insignifiante, à ce cercle très fermé des grands médecins qui sauvent des vies. Un souvenir joyeux, mais pas de cahier. Elle a ouvert tous les tiroirs, soulevé le sous-main, fouillé le porte-document posé sur le bureau. Rien. De dépit, elle se jette en arrière dans le fauteuil à roulettes et dans l'élan s'éloigne d'un demi-mètre. Avec ce nouveau recul, elle aperçoit entre les deux colonnes du bureau une latte transversale et pèse de quelques centimètres seulement. Elle approche sa main et la passe en dessous. Une encoche lui permet de faire coulisser ce tiroir presque invisible. Le cahier est là. Sur la couverture, une seule date. La deuxième est piégée à jamais dans la carcasse d'une voiture broyée. Capucine l'ouvre en tremblant et fait défiler les pages jusqu'à ce qu'elle soit encore blanche. La dernière trace de son père vivant est là, sous ses yeux. 13 septembre 2007. C'était une journée dense et fatigante. Deux opérations à cœur ouvert qui se sont bien passées. Un minuscule Nathan et une petite Emma à qui nous avons pu offrir un avenir, ma charmante équipe et moi. Les parents respectifs étaient soulagés. Je ne me lasserai jamais du regard de ces hommes et de ces femmes quand j'entre dans la chambre pour leur dire que l'opération est terminée, que leur enfant est sauvé. Au-delà de l'intérêt scientifique et technique de la chirurgie, je fais ce métier pour ces moments forts, pour ces échanges de regards entre humains qui s'entraident et s'épaulent. Je suis épuisée par mes journées éprouvantes, mais satisfaite. Quand j'opère, je me passe en boucle cette phrase de Ralph Waldo Emerson. Rire souvent et sans restriction. S'attirer le respect des gens intelligents et l'affection des enfants. Tirer profit des critiques de bonne foi et supporter les trahisons des amis supposés. Apprécier la beauté. Voir chez les autres ce qu'ils ont de meilleur. Laisser derrière soi quelque chose de bon. Un enfant en bonne santé. Un coin de jardin ou une société en progrès. Savoir qu'un être au moins respire mieux parce que vous êtes passé en ce monde. Voilà ce que j'appelle réussir sa vie. Je pense alors avoir réussi la mienne. Encore plus en regardant mes deux filles grandir. En rentrant, Adélie m'a sauté au cou comme tous les soirs quand je reviens avant qu'elle ne soit déjà endormie. Elle portait un nouveau pyjama orné d'une licorne qu'elle m'a montré fièrement. En m'offrant son sourire béat et béant de ses deux incisives supérieures. À 7 ans, elle nage dans le rose, les paillettes, les licornes et les arcs-en-ciel. Derrière elle, se tenait Capucine qui levait joliment les yeux au ciel en voyant sa petite sœur s'extasier pour si peu. À son âge, ma grande était beaucoup moins exubérante, plus réservée, appliquée, sage. Elle l'est toujours. Peut-être trop. Je la vois travailler sans arrêt depuis le collège, et cela a payé. Réussir P1 du premier coup n'est offert qu'à peu d'étudiants. Elle ne sait pas encore quelle spécialité elle choisira pour son internat, mais elle fera un bon médecin, j'en suis certain. Catherine est arrivée de Paris dans l'après-midi. Je sais que cela fait du bien à Rachel de recevoir la visite de sa meilleure amie. Nous avons prévu un dîner-concert demain soir, dans un restaurant d'Epfig. Capucine nous a proposé de garder sa petite sœur. Sa rentrée à la fac est proche, elle aura moins d'opportunités ensuite. C'est adorable de sa part. J'ai une femme magnifique et douce, deux filles fantastiques, un métier nécessaire. Je vais me coucher épuisée, mais je suis un homme heureux. Capucine hurle son chagrin en refermant le cahier sur ce dernier jour. Elle crie l'injustice. Elle pleure cette vie crasse qui lui a enlevé son père. Des cris emprisonnés dans une villa trop grande pour elle. Des cris que personne n'entendra parce que les murs sont trop épais. Le salaud inconscient dort en prison. Mais il sortira bientôt. Il reprendra le cours de son existence. Capucine, elle, a l'impression d'être debout, à côté du manège. Immobile, à le regarder tourner sans elle, depuis que son père en est descendu. Elle pleure le manque et les retrouvailles. Lire ces mots de lui est une épreuve douloureuse et réconfortante à la fois. Il est temps qu'elle accueille son absence. Il est temps qu'elle ouvre la boîte.